quel était le sexe du chevalier Néon par le docteur Gabanès. Nos journaux professionnels relatent de temps à autre une observation d'erreur de sexe, comme celle de cette hypospade périnéale, longtemps considérée comme femme. Il appartenait comme danseuse au corps de ballet d'un théâtre dans une grande ville de province et qui, entré à l'hôpital, se révéla un homme. Le cas du chevalier Néon n'est pas tout à fait de même espèce. Tour à tour homme ou femme, selon les circonstances, il joua parfois les deux rôles dans les mêmes milieux, réussissant à se dérober aux investigations qui auraient dévoilé sa mystification et fait connaître sa véritable personnalité. Il y avait eu un devancier sous le règne de Louis XIV, l'abbé de Choisy, sur lequel nous pourrions bien quelques jours revenir. Il eut un imitateur qui, comme Néon, s'intitulait chevalier, le baron de Fréminville. L'auteur de 50 ans de vie littéraire, un écrivain bien oublié et qui pourtant ne manquait pas d'un certain talent, a conté la visite qu'il rendit un jour à ce dernier. Il se présente rue de l'université, demande le baron précité. Un domestique, très correctement vêtu, l'introduit. Qui aperçoit-il tout d'abord, au fond du salon, entre les deux croisées, une dame poudrée, les joues badigeonnées de blanc et de rouge avec des mouches, des poudres, et tout l'attirail de la toilette sous Louis XV. Après les flatteurs compliments d'usage, le nouveau venu demande à la vénérable aïeule qui lui tend la main où se trouve le baron de Fréminville.
Où il est?
Mais vous l'avez devant vous.
Le costume féminin me plaît. Et quand je suis chez moi, je n'en porte pas d'autre.
Excusez ma surprise, mais je croyais que l'abbé de Choisy était le seul qui se fût passé cette fantaisie.
Et le chevalier Déon?
Alors vous êtes le troisième.
Croirait-on que pour Déon, la question se soit posée, toute sa vie durant, s'il était un homme ou une femme?
Il a fallu attendre sa mort pour lever tous les doutes, et nous ne répondrions pas qu'il n'y ait encore des incrédules.
Le problème est cependant résolu, et résolu sans appel.
Cette chevalière, qui, selon les termes mêmes de Beaumarchais, fumait, buvait et jurait comme un estafier allemand, ne fut ni une pucelle d'Orléans qui ne fut pas brûlée, ni même une amphibie. C'était bel et bien un homme, nous disons même un mâle, et il est singulier que si longtemps on s'y soit mépris. La pièce décisive, c'est le procès-verbal d'autopsie. On y peut lire les certificats authentiques signés des chirurgiens qui ont procédé à l'ouverture de son corps, et notamment l'attestation du frère Élisée, devenu plus tard un des médecins de confiance de Louis XVIII. Mais il y a plus. Il y a l'acte de baptême, qui le donne comme garçon. Il est déclaré fils de noble Louis Déon de Beaumont, directeur des domaines du roi, et de dame Françoise de Charenton, ses pères et mères de légitime mariage. Le nouveau-né fut remis à une nourrice de la ville, qui l'éleva, pour ainsi dire, en public. Aussi, quel ne fut pas l'étonnement de la brave femme quand, plus tard, elle apprit que l'enfant auquel elle avait donné le sein avait changé de sexe. On devine aussi la surprise du curé de l'église Saint-Pierre, à Tonnerre, l'abbé Marcenet, qui avait surveillé l'éducation du jeune Déon et à qui il était souvent arrivé d'administrer des corrections. Encore un que la métamorphose subite de son élève laissa toujours incrédule. Un autre prêtre, M. Lesec, retiré à Tonnerre, qui avait connu Déon enfant et s'était baigné souvent avec lui, faisait une déclaration aussi formelle que les précédentes. Enfin, il y a l'attestation de la propre mère du chevalier, morte à 84 ans, qui aurait dû mettre fin à tout équivoque. Ses premières études terminées, Déon fut envoyé à Paris pour y parfaire son instruction au collège Mazarin. Puis, il devint le secrétaire de Berthier de Sauvigny, un ami de sa famille, intendant de la généralité de Paris. On le vit successivement avocat au Parlement, docteur en droit, prévôt de salle d'armes. En 1757, l'abbé de Bernis l'appelle son cher petit Déon, et ne l'oubliera pas quand il arrivera au fait des honneurs grâce à la protection de Madame du Barry et d'une des filles de Louis XV, Marie-Louise Élisabeth de Bourbon. Les condisciples du chevalier n'ont jamais douté de sa masculinité, mais ils reconnaissent généralement que toutes les provocations sur certains chapitres venaient échouer devant ce qu'ils appellent le calme de ses sens. Il ressemblait, dit un de ses biographes, à une jeune fille par la petitesse de sa taille, restée au-dessous de la moyenne, et par la rareté de sa barbe blondine.
mais cette délicatesse de forme n'excluait pas en lui la vigueur et il était admis comme une des lames redoutables du temps. Son apparence gracile, sa figure fine et imberbe, le timbre féminin de sa voix, lui facilitèrent son introduction auprès de la tsarine Élisabeth, dont le conseiller intime était un médecin, le fameux Lestock, qui avait grandement facilité, par son audace, l'avènement au trône de cette princesse. Mais ce ministre n'était plus en faveur. Il avait été remplacé par le comte de Bestuchev, lorsqu'on vit arriver, sous un travestissement féminin, à la cour de Russie, le jeune Déon, qui fut présenté à l'impératrice sous le nom de Mademoiselle Lia de Beaumont et fut admis parmi les demoiselles d'honneur et, dit-on, comme lectrice auprès d'Élisabeth. Il remit à celle-ci les lettres secrètes dont il avait été chargé pour la tsarine par Louis XV et qu'il avait apportées dissimulées dans la reliure d'un livre de Montesquieu. Nous abrégeons le récit là de sa mission en Russie. Nous mentionnons seulement qu'il fut atteint, à son retour des steppes, de la petite vérole qui sévissait alors presque endémiquement, et nous le rejoindrons à l'armée du Haut-Rhin, où il servait, dans le régiment d'Autichon-Dragon. Il paraît s'être admirablement conduit à la guerre, car, dans un engagement, il fut blessé à la fois au visage et à la cuisse. Un peu plus tard, en 1763, il est à Londres, où il reçoit des lettres qui l'accréditent comme ministre plénipotentiaire auprès du roi d'Angleterre. L'ancien capitaine de Dragon est devenu diplomate. À peine âgé de 36 ans, il occupe déjà un poste important et la tête commence à lui tourner. Cette élévation inespérée l'a positivement grisé. Il n'y a qu'une ombre au tableau. Il se plaint du mauvais état de sa santé et accuse plus de 20 000 livres de dettes, ce qui ne lui permet pas de s'appliquer comme il le voudrait aux affaires du roi. Bientôt, il a des démêlés avec l'ambassadeur sous les ordres duquel on l'a placé. Il ne l'accuse de rien moins que d'avoir voulu le faire empoisonner. Il raconte, à qui veut l'entendre, qu'à un dîner donné à l'ambassade, Lécuyer Chazal l'aurait mêlé à du vin de tonnerre, dont on le savait amateur, une dose d'opium telle qu'il faillit tomber en léthargie et fut obligé pendant plusieurs jours de garder la chambre. La manie des persécutions s'ajoutait chez notre sujet au délire des grandeurs. Cela devait mal finir. Déon fut rappelé en France. C'était plus ou moins déguisé, la disgrâce. Loin de céder à cet ordre impératif, le chevalier tint tête à l'orage et ne voulut pas quitter Londres. Des propos commençaient à circuler sur son compte. On prenait prétexte de l'existence presque ascétique que le chevalier menait pour émettre des doutes sur sa capacité virile. D'autres faisaient courir le bruit qu'il était une femme. Il en était pour lui attribuer les deux sexes à la fois. Ces allégations devaient prendre plus tard de la consistance, mais la légende commençait déjà. Rentré en grâce auprès de Louis XV, Déon, bien que dépouillé de tout titre officiel, n'en restait pas moins l'agent d'information toujours écouté et en faveur auprès du roi. Il fut, selon l'expression du duc de Broglie, qui s'y connaissait, le précurseur, sinon le fondateur de ce métier de reporter politique qui fait si grande figure aujourd'hui à la porte de tous les parlements de l'Europe. Pendant plus de 7 ans, il rédigea et envoya des rapports secrets ou en clair où il entremêlait les nouvelles politiques avec les petits potins qu'il pouvait recueillir et que, fidèlement, il transmettait, non sans les saupoudrer de piquants commentaires. Habitué à son franc-parler, le chevalier s'était fait nombre d'ennemis. De temps à autre reparaissaient les insinuations que l'on connaît. L'uniforme de dragon, colportait-on ci et là, devait cacher ou une femme ou un hermaphrodite. Les traits délicats de son visage, sa figure imberbe, son air juvénile prêtaient à l'illusion. On n'arrivait même pas à découvrir une intrigue dans cette vie qui n'avait rien de caché. Le chevalier avait l'habitude de parler librement de la frigidité de son tempérament. On avait en outre remarqué qu'à toutes les propositions de mariage, il avait toujours opposé un refus courtois mais formel. Dès qu'on parlait d'entrevue, il se dérobait. Quel était ce mystère? L'ambassadeur de France lui-même, qui n'était pas mal disposé, comme son prédécesseur, à l'égard de Déon, ne doutait pas qu'il était une demoiselle pure et sans tache, et il n'avait pas manqué d'informer son souverain de la rumeur publique. Ce fut l'énigme à la mode à Londres en 1771. À la date du 22 septembre, le chroniqueur Bachaumont consignait sur ses tablettes « Les bruits accrédités depuis plusieurs mois que le sieur Déon, ce fougueux personnage si célèbre par ses écarts n'est qu'une fille revêtue d'habits d'homme. La confiance qu'on a prise en Angleterre à cette rumeur, au point que les paris pour et contre se montent aujourd'hui à plus de 100 000 livres sterling, ont réveillé à Paris l'attention sur cet homme singulier. Dans un assaut, le chevalier ayant reçu un coup de fleuret au sein, il s'ensuivit une tumeur volumineuse qui nécessitait une opération chirurgicale et fortifia le bruit qui courait que Déon était une femme revêtue des habits de l'autre sexe. Les paris recommencèrent de plus belle. Craignant qu'on ne l'accusât de tirer profit de ses spéculations auxquelles il entendait rester étranger, Déon fit part au duc de Breuil des tourments que lui causait cette campagne de dénigrement. Il s'indignait qu'on eût ouvert publiquement à la cour et à la cité des polices d'assurance sur une matière aussi indécente pour des sommes considérables. Il avait gardé longtemps le silence, mais à la fin, il n'y avait plus tenu. Il s'était rendu à la bourse, était entré dans les cafés du voisinage, et là, en uniforme, sa canne à la main, il avait exigé d'un banquier, qui avait le premier pris une de ses assurances scandaleuses, de lui présenter des excuses. Il avait ensuite défié le plus incrédule, ou le plus brave, ou le plus insolent de toute l'assemblée, qui allait à plusieurs mille hommes, de se mesurer avec lui, laissant à son adversaire le choix de l'arme. Nul ne se présenta pour relever le défi. Les racontards ayant persisté, le chevalier cassait sa canne sur le dos de deux Anglais, et pendant quelques jours, personne, ni à la ville, ni à la cour, n'osa plus faire de pari public sur l'incertitude du sexe de notre héros. Deux semaines ne s'étaient pas écoulées que Déon recevait, d'amis prudents, le conseil de quitter Londres sans retard, des gens riches, ayant conçu le projet de le faire saisir par ruse, force ou adresse pour le visiter malgré lui, ce qu'il était décidé à ne pas souffrir. Il était résolu à tuer quiconque oserait l'approcher. À nouveau, il proteste auprès de M. de Breuil qu'il n'est intéressé d'aucune manière à cette scandaleuse spéculation. Il est prêt à en faire le serment devant tous les tribunaux d'Europe. « Je suis, ajoutait-il, assez mortifié d'être encore tel que la nature m'a fait. Et le calme de mon tempérament naturel, ne m'ayant jamais porté au plaisir, cela a donné lieu à l'innocence de mes amis d'imaginer, tant en France qu'en Russie, en Angleterre, que j'étais du genre féminin. La malice de mes ennemis a fortifié le tout. » Dans une autre lettre, au même correspondant, il revient sur un sujet qui lui tient au cœur. « Ce n'est pas ma faute si la fureur des paris sur toutes sortes d'objets est une maladie nationale parmi les Anglais, qui les portent souvent à risquer plus que leur fortune sur la seule course d'un cheval. Je me moque de toute leur police d'assurance, de leurs discours, gazettes, estampes, et d'eux aussi, et ils ne l'ignorent pas. Je leur ai prouvé et prouverai, tant qu'ils voudront, que je suis non seulement un homme, mais un capitaine de dragons, et les armes à la main. » Ce n'est pas ma faute si la cour de Russie, et notamment la princesse d'Askoff, pendant son séjour ici, a assuré la cour d'Angleterre que j'étais femme. Ce n'est pas ma faute si le duc de Praslin a dressé et fait dresser en France des informations secrètes et presque publiques pour le prouver, tandis que mon ami Guerchy débitait à cette cour que j'étais hermaphrodite. Enfin, ce n'est pas ma faute si j'existe tel que la nature m'a fait. Bien ou mal conformé, j'ai toujours et de tout mon cœur et de toute mon âme fidèlement servi le roi. » Malgré ses protestations répétées, ses défis crânement relevés, on n'en continuait pas moins dans le public à jaser sur ce qui faisait l'objet de toutes les conversations dans les familles comme dans les clubs. On vit des femmes, des jeunes filles même, assaillir l'infortuné chevalier d'impertinentes questions qui accusaient pour le moins une liberté d'éducation excessive. La fille du Lord Maire de Londres, entre autres, Miss Wilkes, traçait de sa jolie main cette épître, où il entrait sans doute plus de curiosité que de vice. « Mademoiselle Wilkes présente bien ses respects à Monsieur le Chevalier Déon et voudrait bien ardemment savoir s'il est véritablement une femme, comme chacun l'assure, ou bien un homme. Monsieur le Chevalier Déon serait bien aimable d'apprendre la vérité à Mademoiselle Wilkes, qu'il en prie de tout son cœur. Il sera plus aimable encore s'il veut venir dîner avec elle et son papa, aujourd'hui ou demain, enfin le plus tôt qu'il pourra. » Vers la même époque, paraissait à Londres une gravure affichée au coin des rues dans laquelle le chevalier Déon était grotesquement représenté comme une femme accouchant des œuvres de M. Wilkes. On alla jusqu'à offrir 20 000 francs à notre personnage s'il avait la complaisance de se prêter un examen intus et incute à l'effet de vérifier son sexe. Cette vérification est à la pointe de mon épée, répondit le proche chevalier, et nul ne s'aventura, parmi tous ces impertinents, à relever le défi. Le bruit qu'il était une femme était si accrédité que dans l'intervalle des paris, Déon s'étant absenté pour se dérober aux persécutions dont il était l'objet, on répandit dans le public qu'il avait été enlevé par ordre de l'ambassadeur de France, alors le duc de Guines, qu'on disait avoir obéi aux instructions de son gouvernement. Déon fréquentait à cette époque chez un maître d'armes français, à Londres, où il prenait des leçons et s'entretenait la main. On ne manqua pas de s'informer auprès de ce prévôt s'il connaissait quelque chose de la particularité qui intriguait tant de personnes. Il se contenta de répondre qu'en effet, il avait observé que cet athlète, après s'être livré quelque temps à cet exercice, avait coutume de se retirer dans un cabinet attenant à la salle d'armes pour s'essuyer, précaution employée, disait-on, pour ne pas laisser connaître son sexe. Par quelle gradation d'idées passa le chevalier, l'ex-capitaine de dragons, l'ex-ministre plénipotentiaire, pour adopter finalement, dans la seconde partie de sa carrière, le costume féminin? Les explications qu'on a données ne pêchent pas, du moins, par l'invraisemblance. Disgracié, il allait retomber dans l'obscurité. Or, il avait horreur de l'ombre et du silence. Habitué à occuper le monde de sa personne et de ses multiples aventures, il ne pouvait se résoudre à renoncer à cette publicité qui lui était devenue un besoin. Le premier venu des capitaines était son égal, mais quelle gloire ne retirerait-il pas d'être l'émule d'une Jeanne d'Arc ou d'une Jeanne Hachette? Cette métamorphose attirerait sur lui l'attention et des sympathies dans l'Europe entière. Et s'il se prêta si délibérément à cette mascarade, c'est que sa vanité y trouvait son compte et sa tranquillité pareillement. L'événement, sur ce dernier point du moins, ne devait pas répondre à son attente. À peine a-t-il pris sa résolution qu'il est aussitôt en butte à des entreprises dont il eut grand-peine à se défendre. Un jour, c'était un capitaine de grenadiers, M. de Pomereux, qui lui propose de l'épouser. Plus tard, c'est un homme de beaucoup d'esprit qui se laisse prendre aux déclarations de cet androgyne et tombe grossièrement dans le panneau. Beaumarchais, car c'est de lui qu'il s'agit, fut tellement persuadé que le chevalier était une chevalière, qu'il coqueta avec cette rosière de 47 ans bien sonnée qu'il supposait le pays de retour. Transporté d'enthousiasme, il remint à Versailles, plaida chaleureusement la cause de l'aventurier et sut convaincre le ministre et obtenir de lui le rappel de la chevalière. D'ailleurs, un ami de Beaumarchais, Gudin, ayant rencontré cette femme intéressante à un dîner chez le Lord Maire, Déon lui avoua qu'elle était femme et lui montra ses jambes couvertes de blessures qu'elle avait reçues lorsque, renversé de son cheval tué sous elle, un escadron lui passa sur le corps, la laissant mourant dans la plaine. Le secrétaire de M. de Breuil, qui avait été envoyé à Londres pour faire une enquête à ce sujet, assura lui aussi, à son retour, qu'il était parvenu à reconnaître le véritable sexe du sieur Déon. Il était une fille, et n'était qu'une fille, il en avait tous les attributs. On a de Beaumarchais les lettres les plus attendrissantes envoyées au roi, Louis XVI, en faveur de sa nouvelle amie. Un seul échantillon suffira pour donner une idée de l'incommensurable naïveté d'un des plus spirituels français de son époque. Quand on pense, écrivait l'auteur de Figaro, que cette créature tant persécutée est d'un sexe à qui l'on pardonne tout, le cœur s'émeut d'une douce compassion. Et une autre fois, j'ose vous assurer, sire, qu'en prenant cette étonnante créature avec adresse et douceur, quoique aigrie par 12 années de malheur, on l'amènera facilement à rentrer sous le joug et à remettre tous les papiers relatifs au feu roi à des conditions raisonnables. Il existe toute une correspondance de Beaumarchais relatant cette tractation avec Déon, qu'il réussit à mener à bonne fin. Un contrat passé, au nom du gouvernement français par le créateur de l'immortel barbier, avec la chevalière Déon, stipulait que celle-ci abdiquait définitivement et solennellement son nom et sa qualité d'homme, et s'engageait à porter désormais un costume féminin. Le fantôme du chevalier Déon disparaissait entièrement, et une déclaration publique, nette et sans équivoque, du véritable sexe, de Charles Geneviève Louise Auguste André Timothée Déon de Beaumont, avant son arrivée en France et à la reprise de ses habits de fille, fixait à jamais sa personnalité. Le chevalier avait même ajouté de sa main, en marge du document, que son sexe a été prouvé par témoins, médecins, chirurgiens, matrones et pièces juridiques, ce que Beaumarchais raya de son autorité, trouvant excessive cette preuve de surérogation. Afin de s'habituer à son nouvel état, La chevalière s'engagea à se retirer à l'abbaye royale des Dames Bernardines de Saint-Antoine-des-Champs, à Paris, ou dans tel autre couvent de filles dont elle ferait choix. Ce n'était d'ailleurs qu'une retraite momentanée à laquelle elle entendait se soumettre. Avant de quitter pour toujours ses habits d'homme, elle réclamait de la bonté de Sa Majesté une somme d'argent pour acheter son trousseau de filles, sic, se trouvant pour le présent dénuée de tout, linge, habits, ajustements convenables à son sexe. Elle réclamait en outre le droit de porter la croix de Saint-Louis sur ses habits de filles et de conserver un habit uniforme complet du régiment où elle avait servi, le casque, le sabre, les pistolets et le fusil avec sa baïonnette comme un souvenir de sa vie passée ou comme on conserve les dépouilles chéries d'un objet aimé qui n'existe plus. Ce qui porte la bouffonnerie au comble, c'est que Beaumarchais, mêlé de près à la négociation dont nous avons rapporté les articles essentiels, ait pu s'enflammer pour la demoiselle Geneviève Déon. Tout le monde me dit, écrivait-il au ministre, que cette fille est folle de moi. Elle croit que je l'ai méprisée. Mais qui diable aussi se fût imaginé que pour bien servir le roi dans cette affaire, il me fallut devenir galant chevalier autour d'un capitaine de dragons. Il faut reconnaître que dans ce duel d'épigrammes, Figaro n'eut pas les rieurs de son côté. Comment finit l'aventure ? Par le retour du chevalier en France. Dans la nuit du 13 août 1777, Déon quittait Londres et le lendemain, revêtu de son uniforme de capitaine de dragons, il débarquait sur la terre de France qu'il retrouvait au bout de 14 ans. Avant de se rendre à Versailles, le chevalier tint à présenter ses hommages à Madame Louise de France, devenue supérieure du couvent des Carmélites. Celle-ci l'engagea vivement à reprendre ses habits de femme et à laisser son uniforme. Mais Déon ne tint aucun compte de ce sage conseil et pour cause, semble-t-il, puisqu'il n'avait dans son vestiaire aucune robe ni aucun autre vêtement féminin. Muni du sauf-conduit du roi, il pénétrait dans le cabinet du comte de Vergennes, qui, le voyant encore en uniforme, l'accueillit plus que froidement. Le lendemain, Déon reçut la visite de deux médecins de la cour. Lieutot, premier médecin du roi, et M. de Lassonne, premier médecin de la reine, accompagnés de deux matrones de la cour, mais ils se bornèrent à un examen superficiel et décent. Vergennes lui réitéra l'ordre qu'il lui avait donné de reprendre le costume de son sexe. La chevalière parut se résigner à obéir aux ordres du roi. La chevalière, c'est ainsi qu'elle s'appellera désormais, raconte qu'elle demanda l'adresse d'une couturière à la femme d'un de ses amis, avocat, et c'est ainsi qu'elle fut mise en rapport avec Mademoiselle Antoine Maillot, demeurant rue Saint-Paul à Paris. Ses factures sont parvenues jusqu'à nous, et à en juger par les prix indiqués sur son mémoire, ce ne devait pas être une des faiseuses à la mode. Elle compte, par exemple, 15 livres pour façon de chaque robe, quelle que soit l'étoffe. On relève, sur cette singulière pièce, pas moins de 5 robes livrées en même temps, une en taffetas petit gris, la deuxième en taffetas bleu de ciel avec petite rayure puce, la troisième en taffetas bleu de ciel à rayure chamois, la quatrième en croisé broché mordoré, et à la cinquième, noire, en ras de Saint-Maur. Notons encore 2 déshabillés, l'un de taffetas gris, l'autre d'indienne. 8 corsets à 6 livres chacun, 6 camisoles, 6 jupons piqués, 6 peignoirs, 6 paires de poches, 6 pièces d'estomac, etc. Cette première note s'élevait au total de 1330 livres. Sans doute la chevalière avait-elle revêtu le costume qui lui avait été imposé pour rentrer au couvent où elle fit une courte retraite. À la sortie, elle fut recueillie dans une famille des plus honorables, la famille Genet, dont la mère et les 3 jeunes filles appartenaient à des titres divers au service de la reine. Marie-Antoinette montra beaucoup d'empressement à voir de près le bizarre personnage dont s'entretenaient la cour et la ville, mais, en invoquant des raisons de prudence et de politique, on la fit momentanément renoncer à ce projet. Un événement qu'on n'avait pas prévu fournit à la reine l'occasion de satisfaire sa curiosité. Le récit est vivement conté par un anecdotier. Le chevalier se trouvait un jour dans une nombreuse réunion des 2 sexes. Quoiqu'il ressemblât plutôt à un vieux soldat qu'au personnage qu'il représentait malgré lui, la plupart des convives ignoraient à quel sexe appartenait cet animal non décrit. Après dîner, la conversation tomba sur l'escrime. Animé par un sujet si intéressant pour lui, le chevalier, oubliant le respect dû à l'habit qu'il portait, quitta brusquement son siège, troussa ses jupes et se mit en garde. Quoique le chevalier fût habillé en homme par-dessous, cet écart imprévu produisit un effet tel que toutes les femmes et plusieurs hommes sortirent du salon en courant. Revenu de son premier transport, le chevalier rabattit tranquillement sa robe et demanda poliment pardon à la compagnie d'avoir un instant oublié les formes que lui imposait son costume obligé. Toutes les commères de Paris répétèrent bientôt cette histoire, sans oublier la circonstance curieuse des jupes troussées et rabattues au milieu de tous les embarrassants accessoires d'une robe à panier. Ce fut une explosion de faux rires lorsqu'on raconta cette histoire devant le roi et la reine. Louis XVI fit trembler l'appartement à force de rire. La reine, la princesse Élisabeth et les autres dames en éprouvèrent de véritables convulsions. Marie-Antoinette manifesta plus vivement que jamais le désir de voir le phénomène. Mais il y avait l'ukase ministériel, l'ordre du roi lui-même qui interdisait à l'amphibie, comme l'appelait Voltaire, de se montrer en audience publique. Alors il fut convenu que le dimanche suivant, quand leur majesté se rendrait à la chapelle, on imaginerait quelque prétexte pour faire trouver l'homme protté en grand costume au milieu des dames qui attendaient l'heure d'être présentées au souverain. Lorsqu'on sut la nouvelle, on devine l'affluence qui se pressa au château de Versailles le dimanche 21 novembre 1777 pour voir l'héroïne. Quand se présenta la chevalière en large panier, longue queue, vaste robe, manchette à 5 rangs, immense perruque de femme avec de la poudre, très belle barbe, gants blancs, joli éventail à la main, parfaitement rasée, collier boucle d'or et de diamants, et se donnant tous les airs gracieux d'une jolie femme, il se produisit un mouvement extraordinaire de curiosité. Chacun voulait l'approcher et contempler de près la belle toilette confectionnée par Mademoiselle Bertin, la modiste de Marie-Antoinette. Mais, soit l'émotion, soit qu'elle était pressée par l'insistance, soit encore qu'elle ait voulu, pour mieux voir la reine, se précipiter au-devant d'elle, voilà notre chevalière qui laisse tomber sa perruque et sa coiffe, ce qui la met en posture parfaitement ridicule. Elle fit alors une figure si grotesque, en se recoiffant sans devant derrière, que le roi, la reine et toute leur suite eurent de la peine à ne pas s'esclaffer dans la chapelle même, malgré la sainteté du lieu. Ce qui ajouta encore beaucoup à la bizarrerie de l'événement, poursuit le narrateur, ce fut qu'au milieu de la messe, quelques mains charitables ayant ajusté la perruque du chevalier ou de la chevalière, il reparut dans la chapelle comme si de rien n'eût été, portant la queue de sa robe sur le bras. Il alla se placer précisément en face de l'autel, s'éventant à la coquette avec un sang-froid imperturbable, ce qui ne faisait qu'ajouter chez les autres à la difficulté de garder leur sérieux. Un pareil incident ne fit qu'accroître la popularité du pseudo-hermaphrodite. Tout le monde voulait connaître la dame masculine qui avait perdu sa perruque. Les invitations à dîner et à souper plurent de tous côtés à son adresse. Une petite gazette, qui enregistrait toutes les mondanités du jour, lui consacrait ce piquant entrefilet. « Elle ne peut suffire, y lisait-on, aux invitations des Parisiens, auxquelles d'ailleurs elle se prête d'assez bonne grâce, mais sans se gêner, conservant toutes les allures, tous les propos, toute la licence d'un grenadier. Il faut convenir qu'elle a encore plus l'air d'être homme depuis qu'elle est en femme. En effet, on ne peut croire du sexe féminin un individu qui se rase et a de la barbe, qui est taillé et musclé en Hercule, qui saute en carrosse et en descend sans écuyer, ainsi que le chevalier le plus leste qui monte les marches d'un escalier 4 à 4, etc. Elle est en robe noire, comme veuve du secret de Louis XV. Ses cheveux sont coupés en rond, comme des cheveux d'abbé, placardés de pommade et de poudre, surmontés d'une toque noire à la manière des dévotes. N'étant point habituée aux talons étroits et aux des femmes, elle continue d'en avoir de plat et de rond. L'article était suivi d'une chanson assez gauloise qui commençait à circuler dans Paris en même temps que des gravures reproduisant la chevalerie tantôt à pied, tantôt à cheval. D'autres la représentaient en gentilhomme, dont la moitié gauche figurait un dragon et la partie droite une grande dame. Des mascarades s'organisèrent jusque dans les salons. Quelques-uns se présentèrent sous le titre et sous le costume du chevalier Déon, débitant sur sa vie passée et sur ses amours avec Beaumarchais des histoires qui déridaient l'auditoire. L'ex-capitaine de dragon ne pouvait s'habituer à son travestissement. Ses vêtements féminins lui donnaient un air si gauche et si gêné qu'il ne faisait oublier ce désagrément qu'en racontant avec une verve endiablée ses aventures de garnison et ses multiples avatars. Madame Genet et ses filles s'efforçaient en vain de faire l'éducation de cette vierge de 50 ans. Mais comment distraire un être aussi original qui ne jouait à aucun jeu, n'aimait guère à travailler des doigts et ne consentait que par grâce à broder une tapisserie? Tout son plaisir était de lire ou d'aller courir dans les bois. On avait beau l'empêcher de sortir à pied, comme n'étant pas convenable à son sexe, elle déjouait toute surveillance et se livrait sans contrainte à ses goûts. Malgré tout, l'ennui qu'elle éprouvait à se mettre en grand costume, à se parer des dons de la reine et des superbes présents que lui prodiguaient les dames du palais, elle ne tirait pas moins des avantages réels de sa métempsycose. On lui envoyait les meilleurs plats et les meilleurs vins du château royal. Elle avait sa place dans la loge de M. et Mme Campan à la Comédie. Elle était invitée chez les plus grands seigneurs de la cour. Ceux qui s'étaient dévoués à son bonheur espéraient bien couronner leur œuvre en mariant leur protégée. Pourvu que ce fût, tel était le désir exprimé par l'intéressé, avec un brave militaire et non avec un financier, qui regarde une femme comme un zéro en chef, si elle ne lui apporte plus d'écus que de vertus. Des candidats à sa main se présentèrent, tel cet officier décoré de plusieurs ordres, qui lui demandait de l'épouser en lui écrivant qu'elle faisait l'admiration de l'Europe entière. Ne se croirait-on pas en plein vaudeville? Le bibliothécaire de la reine et historiographe de France ne l'appelait dans ses lettres que ma chère chevalière et lui annonçait sa visite pour déjeuner, à moins, ajoutait-il, que vous n'ayez donné rendez-vous aujourd'hui à quelques galants. Le directeur de la grande écurie du roi la proclamait la gloire de la France, l'honneur du beau sexe, l'exemple du nôtre. Un conseiller du roi l'appelait plus familièrement « ma bonne amie ». Jusqu'à M. de Sartines, le lieutenant général de police, devenu ministre de la marine, qui l'assurait qu'il aurait le plus grand égard à ses recommandations. Mais ce qui paraîtra plus incroyable, c'est que dans sa propre famille, on feignait de prendre au sérieux sa métamorphose. On écrivait à la chère cousine pour l'assurer de 1000 compliments, sans jamais faire la moindre allusion à une dissimulation quelconque. Seule, sa sœur continuait à adresser sa correspondance à M. le chevalier Déon et exprimait l'espoir de revoir prochainement son frère à Tonnerre. Sa mère formulait le même vœu. Mais ceci se passait avant le retour en France. Dès qu'il en eut le loisir, le chevalier partit pour sa ville natale, voulant, écrivait-il à sa mère, lui montrer son fils pour la dernière fois. Il fut reçu comme l'enfant prodigue. Sa mère donna, pendant 3 jours, des festins auxquels furent invités toutes les autorités de la ville et des environs. Le maire et les échevins, le monde ecclésiastique et monacal, militaire et civil, les femmes mariées et les jeunes filles allèrent en députation auprès de Madame Déon pour lui adresser leurs congratulations. Chaque soir, 2 pièces de vin étaient placées à la porte de la maison. Pain et victuailles étaient distribués au peuple qui exprimait sa joie en tirant des coups de fusil et des pétards avec tant de frénésie que le feu faillit prendre dans les communs et dans les greniers. Pour inaugurer son nouvel état de fille, le chevalier alla communier dans plusieurs églises. Il espérait, disait-il, que dépouillé de sa qualité d'homme et de son uniforme, il serait délivré de tous les défauts et de tous les dangers inhérents à la condition masculine et par contre investi par le caractère de femme des vertus qui sont l'attribut de ce sexe. Mais, de temps à autre, le vieil homme reparaissait. Beaumarchais l'a pris une fois de plus à ses dépens. Un billet assez impertinent qu'il lui avait envoyé, Déon répliqua par l'épître suivante, qu'il eût été dommage de ne pas tirer de l'oubli, car Déon s'y révèle un polémiste redoutable, et qui paraît bien décidé à ne pas se laisser manquer de respect. La lettre est adressée à M. de Vergennes, mais elle vise en plein le père de Figaro. À mon ermitage du Petit Montreuil, près Versailles, 20 janvier 1778. Monseigneur, à présent que j'ai obéi aux ordres du roi en reprenant mes habits de fille le jour de Sainte-Ursule, patronne de 11 000 vierges et martyr en Angleterre, aujourd'hui que je vis tranquille et dans le silence, sous l'uniforme des Vestales, que j'ai entièrement oublié Caron et sa barque, quelle est ma surprise en recevant une épître dudit sur Caron, à laquelle est jointe copie d'une lettre qu'il dit vous avoir adressée et de votre réponse. Quoique je sache mon bon marché par cœur, j'avoue, monseigneur, que son imposture et la manière dont il s'y prend pour l'accréditer m'ont encore étonné. N'est-ce pas, monsieur de Beaumarchais, qui, ne pouvant me rendre malhonnête et me décider à ses vues de spéculation sur mon sexe, publia partout, à Paris, qu'il devait m'épouser, après que j'aurais demeuré à l'abbaye des Dames Saint-Antoine, tandis que dans le fait, il n'a manqué d'épouser que ma canne à Londres? Parmi mes connaissances militaires et politiques en Europe, y en a-t-il une seule assez sotte pour imaginer que j'irais laisser Garon de Beaumarchais convoler en quatrième noce avec moi. Mais son nom seul est un remède contre l'amour nuptial, et ce nom achérontique ferait peur à la dragonne la plus déterminée au combat nocturne et des postes avancés. Beaumarchais est si désintéressé à ce qu'il publie lui-même qu'il ne veut jamais rien, pas même pour le pauvre Caron. Cependant, j'avais à Londres une belle vierge en miniature d'après le Corrège. Ce monsieur Caron, si désintéressé, me dit qu'il aimait beaucoup les vierges. Je la donnais à monsieur Caron. J'avais une Vénus d'après le Carache. Monsieur Caron me dit qu'il aimait aussi beaucoup les Vénus. Je la donnais à monsieur Caron. J'avais un grand et magnifique coffre-fort de fer avec des serrures merveilleuses à secret pour mettre ma correspondance. Monsieur Caron me dit qu'il aimait beaucoup les coffres-forts. Je le donnais à monsieur Caron. J'avais un portrait de moi où j'étais représenté avec mon uniforme. Monsieur Caron en eut envie, je le donnais à monsieur Caron. Il m'avait offert le sien, jamais il ne me l'a donné. J'avais encore un grand nombre d'autres belles armes en fusil, pistolet et sabre. Monsieur Caron me dit qu'il aimait beaucoup les armes. Néanmoins, comme je les aime aussi, je ne les donnais point à monsieur Caron, quoique je ne sois pas comme lui lieutenant général et commandant en chef d'une armée de chiens, lièvres, lapins, perdrix, faisans, bécasses, bécassines et autres animaux de la vénerie. Vous pouvez tenir pour certain, monseigneur, que toute la probité des quatre ministres réunis, en y comprenant même celle des premiers commis, ne serait pas capable de faire de Caron un honnête homme dans mon affaire. On en est si convaincu en Angleterre qu'au lieu de l'appeler Beaumarchais, le surnom de Bonmarchais lui est resté. Il peut être supérieur à Mademoiselle Déon en esprit, en talent et surtout en industrie, mais le public impartial le reconnaîtra toujours pour bien inférieur en honneur, en vertu et surtout en courage. Il peut dire, avec toute l'éloquence de la singerie dont il est capable, tout le mal de moi qu'il voudra. Je lui répondrai par le refrain de sa chanson favorite, « Dites blanc, dites noir, elle est toujours la même. Oui, je serai toujours en état de faire la barbe à tous les barbiers de Séville. » Je ne crains pas plus sa redoutable plume que sa formidable épée qui n'a jamais vu le jour depuis qu'il est sorti de chez le fourbisseur. La chevalière ne s'en tint pas là. Elle écrivit directement à Beaumarchais sur un ton plus mordant encore. Elle fit un appel aux femmes pour les liguer toutes contre cet ennemi de leur sexe, les invitant à le foyer pour avoir osé parler avec insolence de gens qui valent mieux que lui et qu'il devrait respecter. Elle le livrait à leur vindicte, comme ayant voulu élever son crédit sur celui d'une femme, faire sa cour aux dépens d'une femme, et enfin venger son espoir frustré en écrasant une femme, et celle qui est le plus à cœur de voir triompher la gloire de ses semblables. On ne pouvait se montrer plus féministe, à une époque où le féminisme n'avait pas encore pris le développement qu'il a depuis acquis. Quelques jours plus tard, Déon remportait un nouveau succès. Le chef de justice du banc du roi, en Angleterre, annulait, par une sentence solennellement rendue, la validité des polices d'assurance et des paris qu'il avait autorisés jusqu'alors. Il était déclaré dans le jugement, rendu en langue anglaise, que la vérification nécessaire blessant la bienséance et les mœurs et qu'un tiers sans intérêt pouvait en être affecté, la cause devait être mise au néant. Désormais, prenant son rôle de plus en plus au sérieux, Déon sollicite son admission chez les dames de Saint-Cyr, qui s'empresse de lui donner l'hospitalité. Mais il avait beau s'observer, il ne parvint pas à réfréner des gestes, des manières, des propos qui faisaient toujours ressouvenir de son passage au régiment. Cette contrainte n'alla pas sans un autre inconvénient. Sa santé ne tarda pas à en subir une altération qui fut assez sérieuse pour le pousser à demander au ministre l'autorisation de reprendre les habits de son véritable sexe. Le 27 juin 1778, il présentait à M. de Sartine sa requête. « Pendant 5 mois, j'étais presque continuellement percluse, sick, de la moitié de mon corps, avec des douleurs cruelles de rhumatisme goutteux que je n'avais jamais éprouvées auparavant. Cette maladie m'est survenue par le défaut de l'exercice du cheval, des armes, de la chasse et de la promenade, auxquelles j'étais si accoutumée, et que je ne veux plus prendre sous mon nouveau vêtement à moins de faire courir tout Paris et tout Versailles après moi. De plus, je ne suis pas assez riche pour suffire aux dépenses qu'entraîne nécessairement mon nouveau genre de vie. Dans l'état actuel où je suis, il me faut des domestiques, une voiture, des robes et des chiffons sans fin pour sortir, au lieu que de mon ancienne vie militaire, un seul uniforme, un seul cheval et un seul domestique me suffisaient. si vous ne pouvez pas, monseigneur, déterminer monsieur le comte de Maurepas à me laisser la liberté constante de reprendre les habits d'homme, obtenez-moi au moins celle de les porter tous les jours ouvrés de la semaine pour que je puisse reprendre les exercices qui sont salutaires et indispensables à mon existence. Que je ne sois obligé de porter mes habits de fille que les fêtes et dimanches. Monseigneur, obtenez-moi cela et je vous bénirai. » Mais le ministre se montra intraitable. La demande de la chevalière fut rejetée sans recours. Sur ces entrefaites survenaient des événements qui pouvaient être d'une conséquence incalculable. La France ayant pris parti pour les États-Unis d'Amérique, c'était la guerre déclarée à l'Angleterre. Déon, à cette nouvelle, demandait à reprendre du service. Oubliant tous ses déboires et ses soucis, il écrivait, le 4 août 1778, à M. de Sartine, « Je suis honteuse et malade de chagrin de me trouver en jupe, au moment où l'on va entrer en guerre, et dans un temps où je puis servir mon roi et ma patrie avec le zèle, le courage et l'expérience que Dieu et mon travail m'ont donné. Je peux bien, par obéissance aux ordres du roi et de ses ministres, rester en jupe en temps de paix, mais en temps de guerre cela m'est impossible. Je n'ai pas l'âme ni d'un moine, ni d'un abbé, pour manger, ne faisant rien, tandis que tous mes compatriotes se battront pour leur pays, la pension que le feu roi daigne m'accorder. Laissez-moi reprendre mon uniforme et mes armes, et je sacrifie au service de l'auguste petit-fils de Louis XV et ma pension et ma vie. Aidez-moi, monseigneur, à sortir de l'état léthargique où l'on m'a plongé, qui a été l'unique cause de ma maladie et qui afflige tous mes amis et mes protecteurs guerriers et politiques. Je vous supplie instamment de m'obtenir du roi, pendant la guerre seulement, ce droit dont j'ai joui toute ma vie. Je donnerai, par écrit, ma parole d'honneur à tous les ministres de n'attaquer personne que les ennemis de la France. Vous entendez ce que je veux dire. Je me réserverai simplement le droit naturel de me défendre contre ceux qui pourraient m'attaquer. » La cour de Versailles se montra encore inexorable. La chevalière, dans son désir de s'affranchir de toute tutelle qui lui fut à charge, venait de déménager et quitter la famille Genet pour s'installer dans un appartement où elle fut plus chez elle. Elle alla habiter, rue de Noailles, un logement au deuxième étage d'un pavillon appartenant à un sieur Marion. Le local ne devait pas être bien grand, car le loyer n'était que de 372 livres par an. Il comprenait salon, salle à manger, chambre à coucher et dépendance. Ce petit logement fut assez confortablement meublé par les soins d'un tapissier de Versailles. Le mobilier était tout en bois de rose, y compris la table de nuit. Des rideaux à l'italienne, des encadrements en toile de Jouy, de nombreux tapis, un chiffonnier, une literie très complète, et jusqu'à un meuble de toilette garni de flacons et couverts en maroquin, qui attestait le goût et le souci de confort de la nouvelle propriétaire. Les mémoires du menuisier, du serrurier, du peintre, du faïencier, du ferblantier, du tourneur, du poseur de sonnettes, attestent qu'on n'avait rien négligé pour l'installation intérieure qui, sans être luxueuse, était très convenable. La chevalière avait, pour la servir, son ancien valet de chambre qu'elle avait ramené de Londres et une femme de chambre, sœur de la couturière de Paris, qui le lui avait procuré et qu'elle avait engagé au gage de 200 livres par an. L'état des comptes de la chevalerie, qu'elle tenait régulièrement à jour, montre plutôt les habitudes méticuleuses d'une vieille demoiselle que les allures d'un officier de dragon. Elle était économe et rangée comme une vieille fille. Sa femme de chambre lui taillait elle-même les robes et les jupons. Elle savait même confectionner les polonaises et les corsets. On a retrouvé des notes de février, mars et avril 1778, soigneusement revues et vérifiées par Mademoiselle Déon, pour les moindres achats de lingerie, mercerie, fil, aiguille, etc., toutes suivies de quittances libellées par elle. Ayant découvert que sa femme de chambre s'enivrait, elle la congédia, malgré tous ses petits talents. Une fois renvoyée, elle s'aperçut que la domestique infidèle lui avait volé une robe. Elle la fit rechercher, et l'ayant découverte, elle lui fit signer, sous la menace de la police, une reconnaissance de dette de 128 livres pour la dédommager de sa perte. L'ordre et l'économie n'empêchaient pas la chevalière d'avoir un certain souci de coquetterie. Elle fit de fréquents achats de dentelles, rubans, garnitures en gaze et fourrures. Elle menait d'ailleurs une vie très mondaine, dînant ou soupant tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Chez le premier valet de chambre du roi, ou chez son premier médecin, menant la vie de château, dépensant en visite et en réception l'activité dont elle se sentait dévorée. Elle trouvait encore le temps de publier, sous le nom d'un de ses amis, l'histoire de sa vie militaire, politique et privée, et l'ouvrage parut, ayant en frontispice un portrait qui la représente coiffé du casque de Pallas et portant sur sa large poitrine la croix de Saint-Louis. Cet encens ne la grisait pas outre mesure. Elle eût préféré à tout le pouvoir de circuler librement en costume d'homme. Ne le fit-elle pas quelquefois clandestinement? On peut d'autant mieux le supposer qu'une note de tailleur, datée du 24 mai 1778, indique qu'il a, pour le compte de Madame la Chevalière Déon, réparé, rétréci et garni de boutons blancs brodés 4 vestes et 5 culottes, et qu'il a en outre raccommodé et garni de boutons bleus à l'anglaise 2 redingotes. En août et septembre, le même fournisseur facture des gilets, une culotte et un caleçon. N'est-il pas à présumer que la chevalière projetait déjà de quitter la robe pour la culotte et le corsage pour la redingote? Il y avait longtemps que la chevalière n'avait pas fait parler d'elle. Elle se morfondait dans son obscurité. Sans doute, elle menait une existence large, se livrait, à défaut d'autres, au plaisir de la bonne chère et faisait un fréquent usage des carrosses. Mais l'opinion allait à d'autres préoccupations. Le silence commençait à se faire sur l'héroïne quand on apprit tout à coup qu'elle venait d'être arrêtée et écrouée au château de Dijon, servant alors de prison. Un mercredi matin, deux exempts, munis d'une lettre de cachet, s'étaient présentés rue de Noailles, au domicile de Mademoiselle Déon, s'étaient saisis de sa personne et l'avaient fait partir pour une destination inconnue. On ne sut que deux jours après que la voiture qui l'emmenait avait franchi le pont-levis du vieux château de Dijon. Sa captivité ne dura guère plus d'un mois. La chevalière avait été arrêtée le 20 mars. Le 19 avril, on la remettait en liberté. Injonction lui fut faite de se rendre sans délai à Tonnerre et de n'en plus sortir. La prisonnière ne semble pas avoir fait vœu d'abstinence, au moins pendant sa détention, car la note de ses repas s'éleva pour 5 semaines à près de 500 livres. Chaque jour, le dîner comprenait, après le potage et le bouilli, tantôt un poisson, truite, anguille, saumon, perche, tantôt des écrevisses, puis de la volaille ou du gibier, poularde, bécasse ou bécassine, puis un légume, fréquemment des asperges. Enfin, du dessert, café et eau-de-vie, le tout accompagné régulièrement d'une ou deux bouteilles de vin, souvent du Clos Vougeot. La prisonnière pouvait prendre son malheur en patience. Avant de quitter Dijon, Mademoiselle Déon fit quelques emplettes, dont quelques-unes prêtes à sourire lorsqu'on connaît sa véritable identité. Elle fit l'acquisition de nombreux bonnets de mousseline, de fichus de gaz, de garnitures de robes, d'une bouteille d'eau de lavande et d'un pot de rouge. Autre détail qui ne manque pas de saveur, la chevalière payait, pour un corset à l'anglaise à demi baleiné, 33 livres, pour raccommodage du corps baleiné, fait à Versailles, 12 livres. Ce fut le beau-frère de Mademoiselle Déon qui se chargea du déménagement. Quand celui-ci fut à peu près terminé, le sieur O'Gorman écrivit à sa belle-sœur une lettre dont nous extrayons ce post-scriptum suggestif. Il ne reste ici que 4 habits d'homme, savoir un de camelot galonné en argent, un de velours à fleurs et 2 de drap. En vain, la chevalière Déon fit-elle intervenir auprès des ministres, multiplier les démarches, accabler d'importunités les gens en place pour entrer à Paris. Elle dut ronger son frein et se contenter de vendre à Tonnerre le produit de ses vignobles. On a jadis publié la reproduction d'une lettre de voiture concernant l'envoi d'une feuillette de vin rouge expédiée par la chevalière Déon à la garde de Dieu, selon l'habituelle formule, à un monsieur Falconet, avocat à Paris. Il est juste de remarquer que la chevalière vendait le vin de ses propriétés et nous aimons à penser qu'elle ne le frelatait pas. Mais cela ne suffisait pas à occuper les loisirs de l'exilé. Elle écrivait beaucoup, sollicitait des places et des faveurs pour ceux qui recouraient à elle, car elle aimait rendre service et se montrait toujours prête à obliger. En 1785, la paix ayant été signée avec l'Angleterre, la chevalière Déon fut autorisée à se rendre à Londres, où elle arriva, vêtue de son costume féminin, qu'elle ne quittera plus, probablement par vanité, pour ne pas déchoir aux yeux de ses admirateurs. À la Révolution, elle accueille avec enthousiasme le régime nouveau et demande à rentrer en France pour combattre dans les rangs des patriotes. son humeur guerrière se révolte contre sa cornette et ses jupes. Elle demande à grands cris son casque, son sabre, son cheval, pour aller reprendre à l'armée le rang et le grade que ses services lui ont valu. Elle n'avait du reste jamais donné sa démission et rentrait dans les conditions de la loi. Sa pétition fut renvoyée au comité militaire et ne reçut pas de suite. Elle aurait pu dès lors reprendre ses vêtements masculins, elle n'en fit pourtant rien, et une gravure anglaise de 1791 la montre en respectable matrone avec sa décoration sur son corsage. En 1802, la citoyenne Déon ne perd pas l'espoir de revenir en France, mais en attendant, elle est garde-malade au chevet d'une brave femme avec qui elle vit et qui l'a toujours assistée dans la mauvaise comme dans la bonne fortune. Ses biens avaient été confisqués comme émigrés, les meubles de sa maison de tonnerre vendus, ses papiers saisis. Elle n'avait plus pour subsister qu'une pension de 200 livres sterling que lui servait le gouvernement de Georges III. Alors, pour vivre, elle prit part à des tournois d'escrime et commença une série d'assauts d'armes qui se continua pendant plusieurs années. Elle boutonna jusqu'à 7 fois le célèbre chevalier de Saint-Georges venu exprès à Londres pour la défier. En 1796, un accident l'obligea à renoncer pour toujours à ce sport périlleux. En 1804, la chevalière était dans un tel état de détresse qu'elle fut emprisonnée pour dette pendant 5 mois. Au sortir de la prison, elle retrouva sa fidèle amie, Mary Cole, qui jusqu'à la fin la soigna avec le plus parfait dévouement. La mort de ce personnage extraordinaire devait seule donner le mot d'une énigme qui pour beaucoup n'en était plus une. L'autopsie révéla que la chevalière Déon était un homme parfaitement constitué et un moulage fut pratiqué sur son corps qui fixa définitivement le public sur le sexe du sieur Déon. Il fut enterré à Londres dans le cimetière de Saint-Pancras et suivant sa volonté, son corps fut déposé dans un coffre de bois sur lequel il couchait. Il était âgé de 82 ans. Sans chercher à pénétrer les mobiles qui ont pu pousser le chevalier Déon à donner le change sur sa personnalité, concluons que sa vie restera comme l'un des plus étranges défis que l'histoire ait jamais porté au roman. Ainsi s'achève « Quel était le sexe du chevalier Déon ?» par le docteur Cabanès.